Mesdames, messieurs, bonjour à tous. Développons notre chapitre sur l'époque moderne et je vous propose aujourd'hui de commencer par une gravure que l'on peut mettre en relation avec la Vénus au miroir de Velázquez, d'autant qu'elle est contemporaine, sans doute même légèrement antérieure, au chef-d'œuvre du peintre espagnol. Il s'agit de la femme à la souricière, c'est une gravure inachevée qui relance un vieux motif iconographique. En effet, le piège à souris se retrouve par deux fois dans le célèbre triptyque de l'Annonciation, dit aussi le triptyque de Mérode de Robert Campin, le maître de Flémal mort à Tournai en 1444. L'artiste qui a créé cette gravure construit une image plutôt complexe où le motif du miroir est positionné en bas à droite de la composition. À la différence de celui de Velázquez, ce miroir ne reflète rien. Il n'est là que pour jouer sur le double, le faux, l'illusion, et ça semble confirmé par la femme qui, en haut à droite, regarde un couple s'enlaçant à travers un masque souriant, tandis qu'elle pose son index sur les lèvres. L'homme du couple semble plus précisément enlever la femme. A-t-on affaire à un jeu amoureux ou au drame du ravissement? On ne le sait pas. En haut à gauche, un dieu ailé, peut-être Saturne, avec son sablier sur la tête, enlève quant à lui son enfant à une femme. Est-elle Rhea? L'enfant est-il un Olympien, frère ou sœur du petit Jupiter? On ne le sait pas davantage. Au centre, un poteau tend une grappe à un deuxième poteau à la pommade, tandis qu'un troisième s'intéresse à la feuille de vigne qui cache le pubis de la figure principale. À gauche, sur le meuble orné d'un amour qui suce son doigt, une souricière ouverte attend sa proie. Comme les grains de raisin qui attirent les prédateurs, le sexe de la femme semble ici être un piège. La souricière est une allégorie du piège. La souris elle-même représente le temps qui grignote, c'est-à-dire la corruption et la mort. L'œuvre est manifestement une vanité, mais difficile à interpréter, car laissée inachevée par Claude Mélan, l'auteur de la gravure. Alors voyons cet artiste, Claude Mélan. Claude Mélan est originaire d'Abbeville, dans la Somme, c'est la patrie de nombreux graveurs de talent. Il naît en 1598. Il a vécu et travaillé jusqu'à l'âge de 90 ans. Il termine ses jours en 1688 dans une solitude quasi érémitique. Son père est homonyme et un de ses frères, qui s'appelait Philippe, était chaudronnier et planeur de cuivre. C'est sans doute ce milieu professionnel qui est à l'origine de sa vocation, c'est-à-dire graver au burin des plaques métalliques, des plaques de cuivre. On ignore toutefois quels sont les maîtres de Claude Mélan dans cet art de la taille douce, d'autant que cette technique était assez peu développée en France au début du XVIIe siècle. Alors le Parisien Léonard Gaultier est le seul artiste auquel on pense généralement quand on pose le problème de la formation de Claude Mélan, mais on ne sait pas au juste comment il a été formé. Rien n'exclut que Mélan ait été autodidacte, et ses premiers travaux se ressentent autant de l'art des Flamands que de la manière du Parisien Gaultier. La technique de Mélan est donc la technique de la taille douce, qui consiste à graver en creux au burin sur une plaque métallique que l'on appelle la matrice. C'est la taille douce qui se distingue de la taille d'épargne, c'est-à-dire à propos de la taille d'épargne, quand l'estampe est obtenue à partir d'une matrice avec le dessin en relief, comme par exemple dans la xylographie. Alors, on peut s'arrêter sur cette technique de la taille douce en évoquant un grand maître de cette technique. Il s'agit de Cornelis Cort, dit aussi Cornelio Fiammingo, dont vous avez les références sur la diapositive suivante. Il s'agit d'un peintre, dessinateur et graveur hollandais de la Renaissance. Il a vécu de 1533 à 1578 et il a passé ses dernières années de sa vie en Italie, notamment à Rome, où là il ouvre une école et il va se manifester comme un des plus grands graveurs du moment. Et justement, vers 1570, Cornelis Cort révolutionne la technique du burin en remplaçant les traits brefs et uniformes des anciens graveurs par des sillons plus profonds et un trait plus long et variable. C'est justement cette technique mise au point par Cornelis Cort qui permet d'enrichir la gamme des tons et de mieux moduler l'ombre et la lumière. Pour le dire autrement, la ligne simple est modifiée par une taille spéciale, au burin bien sûr, dite technique de la ligne de gonflement, qui provoque un effet de lumière et d'ombre dans les traits parallèles. On retient cette technique, car elle sera effectivement développée d'une façon magistrale par Claude Mélan. Au XVIIe siècle, effectivement, des artistes comme Claude Mélan suivent cette idée et on arrive parfois à la taille unique, c'est-à-dire à reproduire toute une image d'un seul trait s'enroulant en spirale. C'est le cas de la Sainte Face de Claude Mélan. Insistons encore sur la technique de la taille douce. La diapositive suivante vous présente un schéma de l'impression en creux, donc dite taille douce. Les lignes ou les points du dessin sont creusés dans une plaque de métal lisse. L'encre de la gravure en creux est déposée dans les tailles et essuyée sur le reste de la planche. L'estampe se fait sous forte pression, c'est-à-dire que le papier va chercher l'encre dans les creux de la plaque gravée. On distingue les techniques mécaniques, celles de la gravure proprement dite, c'est-à-dire au burin sur cuivre, au pointillé, au poinçon, à la manière de crayon, à la pointe sèche, à la manière noire, et les techniques chimiques qui utilisent la gravure à l'eau forte. Dans cette technique, c'est-à-dire la taille douce, il y a comme un jeu de vide et de plein qui se retourne sur lui-même, puisque ce sont les creux qui s'emplissent d'encre et les reliefs qui sont vidés de leur encre, cependant que l'image en négatif sur la plaque devient positive sur le papier. Remarquez que c'est là la définition même du suaire qui donne au positif le visage du Christ qui y est imprimé. À Florence, et toujours à propos de la technique de la taille douce, naît la manière fine, caractérisée par des traits menus et serrés. C'est sans doute influencé d'ailleurs d'Uniel. Toujours à Florence, naît également la manière large, qui sera adoptée par deux très importants burinistes italiens du XVe siècle, Antonio Pollaiolo et Andrea Mantegna. C'est de cette façon, selon ces techniques que je viens d'évoquer, issues du milieu florentin essentiellement, que les gravures de Marc-Antonio Raimondi font connaître l'art de Raphaël à l'Europe entière. Et c'est ainsi que la taille douce, avec son jeu de contre-taille, est considérée très vite, dans le courant du XVIe siècle, comme une véritable technique artistique, et cela en partie grâce à des artistes germaniques, tels le maître E.S., mais surtout Martin Schongauer, et surtout Albrecht Dürer. Alors je vous propose maintenant de faire un petit détour par Jacques Callot. Pourquoi Jacques Callot ? Parce que Claude Mélan s'ouvre aux nouveautés techniques et stylistiques des Italiens, d'une part, et s'inspire de Jacques Callot, d'autre part. Jacques Callot, c'est un génie de la gravure, donc c'est l'occasion, me semble-t-il, de le présenter. Callot profite d'un milieu lorrain, très ouvert à l'activité artistique, où Nancy, qui est sa ville natale, est la capitale d'un État indépendant participant pleinement à la civilisation de l'Europe. Callot commence en 1607 un apprentissage chez l'orfèvre nancéien de Monge Croc. La même année, sans doute aidé de son maître, il signe sa première gravure au burin, qui est le portrait de Charles III, le duc de Lorraine. Il a vraisemblablement reçu l'enseignement de Jacques Bellange, qui est le grand peintre et graveur de la cour du duc de Lorraine. Il gagne Rome en 1608, et en 1611, Jacques Callot se familiarise avec cette technique du burin que je viens de vous présenter à l'instant. Il découvre l'invention pittoresque et populaire de Francesco Villamena, il fréquente l'atelier de l'aquafortiste Antonio Tempesta, qui le suit à Florence à la fin de 1611. En 1614, Jacques Callot est admis parmi les artistes pensionnés des offices et reçoit sa première commande officielle, celle des 16 planches de la vie de Ferdinand Ier de Toscane, le grand-duc de Toscane, résidant à Florence. Commence alors une période d'activité intense qui va durer 7 années. Et dans ce contexte de la cour du duc de Toscane, grâce à Parigi. Parigi, c'est le grand ordonnateur des fêtes princières et du même coup l'inventeur de l'opéra. Callot approfondit les langages du dessin à la plume et de l'eau-forte. Il développe son goût pour les figures minuscules, ce que montre très bien ce document, ce premier document que vous avez de Jacques Callot, ce paysage qui montre en effet de minuscules figures et donc un horizon très très élargi sur un village dans une campagne. Ces figures minuscules sont extrêmement importantes à signaler parce qu'en ce début du XVIIe siècle, ça va entraîner d'autres artistes, des peintres essentiellement, à développer ce genre et on va arriver au travail de Claude Gelée, dit le Lorrain par exemple, qui a apprécié effectivement ce jeu de figures minuscules dans des paysages qui sont absolument grandioses. Mais revenons à Parigi, revenons à la cour du grand-duc de Toscane. Cette collaboration avec Parigi entraîne Jacques Callot dans l'expérience des cérémonies et des fêtes florentines, ce que montre le document suivant. C'est-à-dire, à droite, vous avez un extrait des intermèdes. Les intermèdes ont été publiés en 1617 et les intermèdes ont été mis en scène par Parigi, immortalisé sous la forme de la gravure que vous avez ici, qui est d'ailleurs une eau-forte, par Jacques Callot. Remarquez aussi que ces spectacles qui étaient déjà donc merveilleux, fantastiques, qui étaient joués donc à la cour du grand-duc de Toscane, mis en scène par Parigi, suggère à Jacques Callot un climat fantastique, notamment quand il aborde le thème de la tentation de Saint-Antoine. Dès cette époque d'ailleurs, c'est-à-dire dès 1617, on a une première tentation de Saint-Antoine de Jacques Callot, mais là j'ai préféré vous présenter une tentation de Saint-Antoine tardive dans la carrière de Jacques Callot. Elle date de 1634, mais elle reflète très très bien ce goût chez Callot du fantastique, qui ne se démentira jamais finalement à travers la carrière du grand graveur. Revenons au fait, dans le miroir du spectacle florentin, Jacques Callot restitue la gestuelle burlesque de la Commedia dell'arte, c'est la référence aux deux pantalons que vous avez sur la diapositive suivante. Il révolutionne aussi la technique de l'eau-forte par l'emploi du vernis dur des ébénistes, par la pointe échoppe également, par la pratique de la taille unique, comme Mélan, par exemple, pratiquera cette technique de la taille unique, et enfin, par les morsures successives de l'eau-forte, et ça donne ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire une fête florentine avec des gradations, des rapports d'ombre et de lumière qui sont extrêmement raffinés, et puis des détails qui sont extrêmement sensationnels. Callot se dote ici d'un moyen d'expression qui semble dépasser le burin en lisibilité et en finesse. Donc ce qui fait la force de Callot, ce sont ses expériences qu'il tente, et donc à la suite de Cornelis Cort, c'est ces techniques qu'il met au point, qui permettent justement ce raffinement, cette lisibilité, cette clarté, ce souci des détails. La diapositive suivante, toujours de Jacques Callot, présente les bohémiens. En fait, il s'agit d'une suite qui correspond sans doute au voyage de retour au printemps 1621, c'est-à-dire que Jacques Callot quitte l'Italie et rentre en France. Rappelons qu'à cette époque, les artistes français étaient attirés par l'Italie, très attirés par l'Italie. Certains d'entre eux restaient en Italie, c'est le cas justement de Claude Gelée dit Le Lorrain, mais aussi de Poussin. Quelques autres rentraient en France, c'est le cas de Simon Vouet, mais après des séjours italiens qui ont été pour certains très 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 longs, et c'est le cas de Jacques Callot. Alors, cette suite des bohémiens, c'est aussi, dit-on, un souvenir d'enfance. En effet, l'auteur aurait suivi jusqu'à Rome un groupe de bohémiens après s'être enfui de chez lui à l'âge de 12 ans. Et ce sont des marchands de Nancy qui le découvrent et le renvoient chez ses parents. Cette histoire n'est pas certifiée par les archives et donc les historiens, mais elle semble tout à fait crédible et elle peut effectivement justifier très largement cette suite des bohémiens. La très célèbre série des Gueux, La noblesse et les Gueux, est commandée en Italie et terminée en France. Je vous montre ici le joueur de vielle de Jacques Callot. Pourquoi ? Parce que, automatiquement, vous remarquez qu'elle a inspiré très fortement les peintures diurnes de Georges de la Tour, qui s'en prenaient littéralement à ces gens d'une classe sociale inférieure à celle à laquelle il appartenait. Le grand peintre Georges de la Tour était un hobereau lorrain, justement, et Georges de la Tour n'a fait dans un premier temps qu'imiter les sujets des autres artistes. C'est l'occasion de comprendre effectivement que Georges de la Tour, dans sa période diurne, a très souvent emprunté à Jacques Callot ses motifs. Restons encore un peu sur Jacques Callot. À Nancy, maintenant qu'il est rentré, il bénéficie de la protection du duc Henri II, puis la cour brillante du duc Charles IV lui inspire ce que vous avez maintenant sous les yeux, c'est-à-dire le parterre de Nancy. Entre autres souverains qui lui passent des commandes, Louis XIII lui demande le siège de La Rochelle, que je vous ai mis sur la diapositive suivante, et le siège de l'île de Ré par la suite. Ajoutons encore que Callot fait de fréquents séjours à Paris en 1628 et 1629, qu'il commence à confier l'édition de ses planches à son ami Israël Henriette. Il participe aussi au courant de renouveau catholique, animé par les franciscains et les jésuites. Il ne faut jamais oublier effectivement que le XVIIe siècle est fortement marqué par la contre-réforme ou la réforme catholique, et c'est comme ça qu'il va travailler avec les imprimeurs en gravant des frontispices, comme celui que vous avez sous les yeux, la Sainte Famille de Jacques Callot, qui date justement de 1628. Et je vous propose de conclure sur Jacques Callot en précisant qu'en 1633, Israël Henriette, l'imprimeur de Jacques Callot, publie à Paris Les grandes misères de la guerre, et c'est effectivement une série absolument donc extraordinaire et épouvantable à la fois, qui illustre la guerre de 30 ans dans toute son horreur. Alors on le voit, cet itinéraire de Jacques Callot croise celui de Claude Mélan. Claude Mélan a été fortement impressionné par le talent de Callot, et c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas ne pas évoquer ce travail et cette carrière de Callot. Alors bon, bien sûr, il est temps maintenant de revenir sur Claude Mélan. Claude Mélan fait en 1623 une rencontre déterminante, celle du célèbre érudit aixois Claude Fabry de Peresc, qui va le pousser au voyage en Italie avec notamment des lettres de recommandation, peut-être même des subsides, bah notre artiste, Claude Mélan, pourra effectivement se rendre en Italie. Encore une fois, j'insiste, l'Italie, c'est incontournable pour les artistes de cette époque. Rome, Florence et Venise sont des villes qui attirent énormément les artistes, qui, je le disais, vont y séjourner longtemps, voire y rester toute leur vie. Alors Mélan est à Rome au printemps de l'année 1624. Il étudie les œuvres de Francesco Villamena, que j'évoquais tout à l'heure à propos de Callot, celle de Cornelis Corte, qui, souvenez-vous, à Rome en 1570, révolutionnait la technique de la taille douce, du burin. On y reviendra sur cette technique, bien sûr, pratiquée, développée par Claude Mélan. Et encore, Gélis Savellaire, ainsi que les meilleurs burinistes, avec Goltzius, par exemple, voilà les artistes que notre Claude Mélan, installé à Rome en 1624, étudie. Et justement, ça coïncide avec la présence de Simon Vouet à Rome et d'artistes français innombrables qui formaient une sorte de colonie d'artistes français installés à Rome autour justement de ce Simon Vouet. Enfin, pour le dire autrement, Claude Mélan à Rome fait deux rencontres capitales. Celle de Simon Vouet, qui a une notoriété, une aura absolument immense auprès à la fois des Italiens et des Français, et également de Gian Lorenzo Bernini. C'est la deuxième rencontre capitale que fait notre artiste Claude Mélan. Alors que Mélan étudie avec Simon Vouet, il étudie le dessin, il étudie la composition, ses interprétations des tableaux du maître, donc des tableaux de Simon Vouet, connaissent un grand succès, certaines d'entre elles étant immédiatement copiées par des graveurs français et vont bien sûr se retrouver en France même. Donc là je vous ai proposé de Claude Mélan, d'après Simon Vouet, une psyché regardant l'amour endormi, qui n'a pas de date, mais enfin que l'on peut bien sûr placer au moment de cette rencontre que l'on pourrait qualifier d'émancipatrice pour Claude Mélan à Rome, la rencontre qu'il fait avec Simon Vouet. Et cette gravure, qui est absolument magnifique, traduit effectivement l'influence des compositions de Simon Vouet sur Claude Mélan. Il emprunte la composition à Simon Vouet. Et sur un plan strictement technique, on va remarquer ici l'entrecroisement des hachures qui permet de créer un rapport d'ombre et de lumière qui est tout à fait dans le goût de l'art du XVIIe siècle, d'autant plus que Psyché soulève cette lampe au-dessus du corps de son époux, c'est-à-dire Cupidon, et ça crée tout d'un coup une œuvre nocturne, une œuvre à la chandelle, pourrait-on dire. La chandelle ici, c'est la lampe à huile, et il fallait effectivement que notre artiste, notre graveur, mette en place une technique qui rende parfaitement ce contraste puissant d'ombre et de lumière dans le goût de l'art du XVIIe siècle. La gravure suivante de Claude Mélan est un Saint-Pierre Nolasque que l'on peut effectivement resituer dans son contexte. En effet, en 1627, notre artiste donne au public romain cette grande estampe, vous l'aurez remarqué, pour une gravure c'est très grand, 35 cm sur 48, c'est beaucoup. Bon, c'est donc un Saint-Pierre Nolasque qui a été commandé par l'Ordre de la Merci à l'occasion du procès en canonisation de son fondateur, c'est-à-dire Saint-Pierre Nolasque lui-même, et il faut savoir que le succès de cette composition a été considérable. L'œuvre ne manque pas de faire référence à des compositions baroques, notamment ce groupe d'anges qui soulève Saint-Pierre Nolasque dans un contexte d'architecture ecclésiastique. À l'arrière-plan, on voit effectivement des grandes verticales qui marquent cette architecture, qui aussi permettent de stabiliser la composition, de lui rendre effectivement une certaine tenue, et des moines de l'Ordre de la Merci se voient dans l'arrière-plan, les uns après les autres, ce qui insiste sur la perspective qui nous conduit à la porte de de l'architecture. Voyons une autre gravure de l'artiste à partir de 1629. Donc, il réalise une gravure qui est le Saint-Jean-Baptiste, qui est une très belle estampe, qui a là aussi marqué considérablement les Italiens, comme d'ailleurs les Français, puisque je l'ai expliqué, ce type de gravure se répand partout. Bon. Et à partir de 1629, donc à partir de cette très très belle estampe, Mélan commence à développer une technique de taille unique. Taille unique, je l'évoquais tout à l'heure, cette technique de taille unique, c'est-à-dire son l'entrecroisement de hachures que j'ai évoqué à propos de la psyché regardant l'amour endormi, où on voyait effectivement comment l'artiste crée un rapport d'ombre et de lumière. Ici, dans cette gravure, il faut effectivement partir du principe qu'il n'y a pas ce jeu d'entrecroisement de hachures. C'est une taille unique et c'est ça qui va faire le renom de Claude Mélan, cette maîtrise qu'il a de la taille unique. Et on s'aperçoit finalement que c'est un travail qui est d'une audace absolument incroyable. On s'aperçoit que l'artiste rend d'une façon tout aussi pertinente, peut-être encore plus frappante, les rapports d'ombre et de lumière, qu'il joue sur des détails qui sont pour certains infimes dans ce paysage. La lumière est aussi extrêmement importante, impressionnante, et sur un plan strictement, disons, iconographique, ou plutôt comment il a traduit cette iconographie, il semble, ce Claude Mélan, anticiper sur des gravures symbolistes de la fin du XIXe siècle, et je pense en particulier à celles qui ont été créées soit par Odilon Redon, soit donc des artistes proches de Odilon Redon. Quoi qu'il en soit, si on revient à cette technique, technique de taille unique, c'est-à-dire sans entrecroisement de hachures, on peut préciser qu'il a été aidé dans cette recherche par les travaux qu'il exécute d'après Gian Lorenzo Bernini. Donc ce séjour en Italie de Claude Mélan est vraiment considérable. C'est un moment de sa carrière où, comme Jacques Callot l'a fait, comme Cornelis Cort l'a fait aussi, et d'autres artistes avant eux, c'est-à-dire Albrecht Dürer ou Martin Schongauer, bon, tous ces graveurs de renom donc, sont motivés pour développer des techniques, pour les améliorer, ces techniques de gravure, ces techniques de burin, et à partir notamment de chefs-d'œuvre qui les inspirent énormément. C'est le cas de ces chefs-d'œuvre de Gian Lorenzo Bernini qui inspirent Claude Mélan. En même temps, il est appelé à graver pour le marquis Vincenzo Giustiniani certaines pièces de sa collection d'antiques. Voilà une autre façon d'expliquer ce qui peut inspirer Claude Mélan, ce qui peut l'émanciper, ce qui peut le conduire à développer des techniques et à les améliorer. Bon, et je vous ai mis justement ici le portrait par Claude Mélan de Vincenzo Giustiniani, qu'il a réalisé en 1631 à la craie noire et au crayon noir sur papier. Ce n'est pas une gravure dans ce cas. Alors notre artiste Claude Mélan quitte l'Italie en 1636. Après avoir, entre autres nouveaux travaux, gravé ce portrait que vous découvrez maintenant, qui est le portrait du cardinal Alphonse de Richelieu, à qui d'ailleurs il dédie plus tard un Saint Bruno. Passons donc sur la gravure qui reproduit le portrait de Alphonse de Richelieu pour voir de plus près celle qui présente Saint Bruno. Alors c'est une gravure là aussi magnifique, une gravure qui joue merveilleusement sur les rapports d'ombre et de lumière. Saint Bruno de l'ordre des Chartreux est agenouillé dans un paysage et c'est l'occasion pour l'artiste de créer des rayons de lumière qui s'abattent sur le visage de Saint Bruno, qui est littéralement ici en extase, ou censé voir, bien sûr, la divinité, tandis que l'artiste propose des percer dans ce paysage rocheux, dans ce paysage de grottes qui rappelle effectivement que Saint Bruno est ici comme un ermite, et dans les perspectives, les percées, donc les ouvertures, on découvre toute une iconographie qui est soigneusement mise en place, que ce soit le chien ou la tête du chien au premier plan à gauche, que ce soit le crâne de la pénitence, le crâne de la vanité, le crâne qui évoque donc ce renoncement au monde hein, des religieux, comme justement Saint Bruno. Enfin, une gravure qui est extrêmement bien menée, une gravure qui est parfaite sur le plan technique, parfaite aussi sur ses rapports d'ombre et de lumière, de mise en place de l'iconographie dans l'espace. Notre artiste est donc rentré en France et là il est retenu pendant un an par Peiresque, que j'évoquais tout à l'heure, donc l'érudit aixois. Mélan est donc retenu à Aix en Provence et là il réalise une première. Il va graver trois vues des phases de la Lune observées sous la direction du philosophe Gassendi à travers un télescope fourni par l'illustre Galilée. Donc vous avez ce document sous les yeux qui est tout à fait incroyable, les trois phases de la Lune observées par Peiresque et Gassendi entre le 24 septembre et le 7 novembre 1636 au sommet de la montagne Sainte-Victoire. Donc il faut bien comprendre comment ça s'est passé. La main du graveur Claude Mélan était guidée par les deux savants qui, eux, avaient les yeux rivés sur leurs lunettes astronomique. Le résultat est absolument époustouflant, puis ça permet d'introduire donc quelque chose peut-être de nouveau, encore que on peut le nuancer, c'est le goût des sciences chez Claude Mélan. Ça peut se nuancer parce que les techniques de gravure sont des techniques qui sont assez compliquées. Ça force les artistes, les graveurs, à être des scientifiques, c'est-à-dire des chimistes pour ceux qui pratiquent l'eau forte, mais donc des techniciens, effectivement, des gens qui sont versés dans le domaine des sciences pour toujours faire en sorte d'améliorer leurs techniques, hein, de les développer. Alors nous arrivons justement ici à un très grand chef-d'œuvre de Claude Mélan qu'il a réalisé à son retour d'Italie, donc on est en France dans ce cas. Il s'agit de l'estampe Jacob Abreuve, Le troupeau de Rachel, donc une composition qui est là aussi très inspirée par les Italiens. Aussitôt, vous avez remarqué la très grande et puissante diagonale qui traverse toute la composition. Disons des brebis qui sont en bas à gauche aux têtes de dromadaires que l'on voit en haut à droite. Donc sur cette diagonale puissante et très dynamique, on rencontre les personnages principaux. Rachel qui se lave à la fontaine et Jacob qui puise de l'eau dans cette fontaine pour abreuver son troupeau. Et la contre-diagonale permet bien sûr magistralement d'équilibrer cette composition qui est sobre, simple, efficace, mais qui ne manque pas quand même d'inclination baroque, c'est-à-dire que la grande figure de Jacob est une figure assez dynamique, voire enroulée un petit peu sur elle-même, ce qui permet bien sûr d'apporter ce dynamisme à la composition, d'amplifier l'effet de mouvement et de vie dans la composition. Alors nous arrivons maintenant à un portrait qui est encore celui d'un érudit. Il s'agit du portrait de Henri-Louis Habert de Montmort. La fréquentation de salons comme celui de ce scientifique, donc Henri-Louis Habert de Montmort, donne à Claude Mélan l'occasion de graver quelques planches à la symbolique plus ou moins complexe, parmi lesquelles la femme à la souricière, par laquelle j'ai commencé cette présentation, parce que je souhaitais mettre en rapport la gravure de Claude Mélan avec le tableau, le chef-d'œuvre de Velázquez, hein, par le détour, si l'on veut, du miroir et de la figure principale de la femme allongée sur le dos. Une deuxième gravure peut être évoquée dans ce contexte, c'est Adam et Ève au pied de la croix, ça correspond à la diapositive suivante. Donc une composition effectivement assez complexe, parce que bourré là aussi de motifs iconographiques. Alors il faut d'abord rappeler effectivement que la croix est plantée sur le mont du crâne, le Golgotha, que ce crâne est censé être celui d'Adam, que par conséquent Adam et Ève au pied de la croix, c'est une représentation, une évocation du moins de la mort d'Adam et Ève chassés du paradis. À partir de là, on comprend mieux la présence du serpent, mais le serpent ici semble écrasé par la croix elle-même. Le squelette qui se profile à côté, bien sûr, évoque la mort. La mort et donc les premiers morts de cette humanité qui se met en place, c'est-à-dire Adam et Ève. Cependant, la croix a vaincu la mort. Le Christ a vaincu cette mort et c'est sans doute aussi une image qui évoque la résurrection des chairs. On peut remarquer, entre autres choses, la chaîne qui semble brisée en bas à gauche, cependant que Adam et Ève tiennent une pomme, chacun dans leur main, évoquant ce péché. Donc on a sans doute une allusion à la rédemption, à l'effacement de ce péché, mais le péché reste quand même très présent par ses motifs. Encore une fois, l'image est compliquée, d'autant plus qu'il y a d'autres motifs, comme une feuille de figuier, une branche épineuse qui ne manque pas d'évoquer la couronne d'épines du Christ et quelques autres détails qui ont été sans doute à l'époque de Claude Mélan très commentés. On aimait effectivement ces compositions complexes qui ont du mal à se réduire à une seule explication. De retour à Paris en 1637, auréolé de sa gloire romaine, Claude Mélan est très vite sollicité par Richelieu, qui montre effectivement qu'il est considéré comme un artiste majeur, au même titre que Poussin. Nicolas Poussin a été sollicité par Richelieu, a dû retourner en France, quitter Rome, pour répondre à des commandes de Richelieu et de Louis XIII. Donc notre Claude Mélan, pareillement, est sollicité par Richelieu pour graver, d'après Poussin et d'après Stella, les frontispices des premiers grands livres issus de l'imprimerie royale naissante entre 1640 et 1642. Mélan sera logé au Louvre, comme beaucoup d'artistes, à commencer par Stella justement. À partir de 1642, il est logé au Louvre et il y restera jusqu'à sa mort. Cependant, le décès de Richelieu, 1642, puis celui de Louis XIII, 1643, l'éloignent des commandes officielles, malgré une cour assidue à la reine-mère, par estampe interposée. Et c'est comme ça que notre artiste Claude Mélan fait le portrait de Louis XIV enfant. C'est la diapositive suivante, qui est un portrait absolument magnifique, extrêmement raffiné, très fin. Ce n'est pas une gravure, c'est un dessin à la craie noire qui est capable de restituer toute la délicatesse de l'enfant et peut-être même plus son intelligence, sa vivacité d'esprit, peut-être même une pointe d'espièglerie, ce qui permet de dire que Claude Mélan a aussi des dons de pénétration psychologique quand il rend effectivement ce portrait de Louis XIV. En 1647, Mélan est peintre et graveur du roi. Il reçoit la permission de graver les images de son invention. En voici une, justement, qui est absolument incroyable, absolument sensationnelle. Donc il s'agit des satyres ou les moqueurs qu'il a réalisés avant 1645, mais qui est une image de son invention, qui anticipe sur ce droit, en fait, qu'il aura à partir de 1647 de graver comme il l'entend. Donc les satyres ici ne manquent pas de rappeler ou de renvoyer au travail de Jacques Callot, par conséquent à tout ce contexte de fêtes princières, donc de fêtes dans lesquelles effectivement le fantastique l'emporte toujours. On l'a dit à propos de Jacques Callot. Jacques Callot a toujours été un artiste fasciné par le fantastique, ce fantastique qui était inspiré par justement l'organisation des fêtes princières à la cour du duc de Toscane. Anne. Et c'est un petit peu ce que l'on retrouve ici, finalement, quelque chose de festif et de fantastique. Alors, on peut être un petit peu plus précis. Les satyres, ici, se moquent d'un dessin qui semble accroché à un arbre, ou du moins que les satyres ont décroché de l'arbre de façon à mieux montrer ou présenter le dessin qu'il contient. Alors c'est peut-être la référence à un usage antique. En effet, pour remercier ou honorer un dieu, les fidèles accrochés aux arbres du sanctuaire, autour des statues et sur les autels des temples, des tablettes de terre cuite ou de bois, percées d'un trou pour les suspendre. Et parfois même, on pouvait trouver des peintures, comme par exemple le très célèbre tableau de Cébès, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Ici, le dessin qui est moqué par les satyres reproduit au centre un âne qui piétine un livre et quelques objets tels compas et équerres. Les satyres se moquent du monde, c'est pourquoi l'un d'entre eux, c'est-à-dire le principal, celui qui est à droite, au premier plan, est assis sur un orbe. Nous avons donc ici de nouveau une vanitas qui est traitée avec beaucoup de science parce qu'on va y retrouver quantité de motifs iconographiques. Ça ne vous a pas échappé. Comme dans La femme à la souricière, il y a un poteau en bas à gauche avec dans ses mains des grappes de raisins magnifiques et que l'on soupçonne être juteuses. Par conséquent, on a aussi l'allusion, bien sûr, au plaisir de la chair, à ce qui est en quelque sorte vain dans le contexte religieux qui est celui de Claude Mélan, c'est-à-dire la réforme catholique. L'Annonciation de Claude Mélan est une œuvre qui est tout à fait extraordinaire, très bien pensée sur le plan de la composition, avec cet ange magnifique qui tourne le dos au spectateur, mais la figure, le corps donc de l'ange de l'Annonciation, est contorsionné, vrille un peu, crée une sorte de spirale qui conduit le regard du spectateur vers le haut, vers les cieux, des cieux littéralement fantastiques, où se manifeste la présence de Dieu le Père, entouré de têtes d'angelots, tandis qu'une ouverture sur la droite, sur un paysage, aère la composition, qui est marquée par quantité de formes nuageuses, et Marie, dans ce contexte-là, est mise en évidence d'une façon splendide. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, l'artiste travaille au burin et que ce travail se fait à la taille unique. C'est donc une technique de taille douce, mais une technique de taille unique. Ce que montre d'ailleurs très bien, ce que montrait le détail précédent des satyres, où vous constatez qu'il n'y a pas d'entrecroisement de la taille, comme pour la psyché qui regardait l'amour endormi. Non, non, ce sont bien effectivement des traits parallèles, donc un système de taille unique qui rend les contrastes d'ombre et de lumière d'une façon magnifique. Ajoutons encore que la cour royale fait à nouveau appel à Claude Mélan à partir de 1668 et qu'il s'agit pour le graveur, de laisser des estampes qui restituent les statues des collections du roi, et c'est ce que montre ici l'Agrippine, dite aussi Mnémosyne, donc une superbe gravure de Claude Mélan qui, là encore une fois, a la qualité de révéler cette maîtrise de la taille unique qui restitue, selon moi, donc d'une façon merveilleuse, d'une façon aussi pertinente qu'un apophortiste le ferait, les rapports d'ombre et de lumière. Allons un petit peu plus loin à ce propos. Vous découvrez deux autres statues, celle de Héraclès qui tient une des pommes des Hespérides du jardin des Hespérides dans sa main gauche, donc il est appuyé sur sa massue, elle-même posée à la verticale sur un rocher, par-dessus la massue la peau du lion de Némée, tandis que l'autre statue, enfin la gravure de Claude Mélan, restitue une statue de Portia. La gravure date de 1670, comme vous l'observez. Et si on devait aller plus loin, toujours à propos d'un plan technique, on pourrait parler, à propos de cette technique de Mélan, de gravure blanche. Et justement, ça nous conduit à la sainte face de Claude Mélan. La sainte face du Christ sur le voile de Véronique. Alors justement, cette façon de parler des gravures de Claude Mélan, c'est-à-dire des gravures blanches, nous ramène à notre sujet principal, c'est-à-dire la Sainte Face. La Sainte Face du Christ est donc une gravure de Claude Mélan qui a été exécutée en 1649 et exécutée d'une seule spirale de burin, comme je l'expliquais en début de cette présentation. Alors il y a donc deux choses quand on découvre cette sainte face de Claude Mélan. D'abord, il y a le choix d'un sujet qui prétend rendre les traits physionomiques au Christ. Et ensuite, il y a une technique virtuose pour illustrer ce sujet. Alors commençons par le sujet. Ensuite, on évoquera la technique. À propos du sujet, il y a plusieurs récits qui racontent l'invention de l'image du visage du Christ. Cette image reproduit un prototype miraculeux ou merveilleux. Miraculeux parce que né sans l'intervention d'un artiste, merveilleux, c'est-à-dire légendaire. Alors justement, on peut évoquer un récit merveilleux, un récit qui est une légende inscrite dans l'hagiographie chrétienne. C'est le récit du mendilion que vous avez sur la projection suivante. Alors le mendilion, c'est le tissu portant le portrait du Christ. Sa première mention remonte au VIe siècle et se rapporte à la ville d'Édesse. Édesse, aujourd'hui, c'est Urfa, au nord de la Syrie. On raconte que le roi d'Édesse, qui s'appelle Akbar V, dont vous avez ici le portrait sur une icône du Xe siècle, envoie une délégation auprès de Jésus. Donc le récit nous situe du temps de Jésus. À cette occasion, on fait le portrait de Jésus que l'on rapporte au roi. Ce portrait est ensuite transporté à Constantinople au Xe siècle, époque de l'icône que vous avez sous les yeux, où là, à Constantinople, il devient le palladion impérial. Et ce palladion impérial disparaît au cours de la quatrième croisade, en 1204, et réapparaît à la Sainte-Chapelle à Paris, pour disparaître finalement à la Révolution. Bien que disparu, il faut signaler qu'on trouve des mendilions un peu partout dans le monde chrétien. Donc on a affaire à une invention de l'image du visage du Christ, une invention, un récit légendaire, un récit qui est merveilleux. L'histoire connaît quantité de variantes. On raconte aussi que l'apôtre Thomas, donc ça nous situe toujours du temps de Jésus, envoie Thaddée d'Édesse avec un portrait de Jésus auprès d'Akbar malade, qui sera guéri miraculeusement à la vue de ce portrait. Le portrait est réalisé donc d'une façon concrète, donc sans miracle si vous voulez, donc par un artiste, mais une fois réalisé, le portrait fait des miracles. Alors on connaît effectivement ces histoires et on raconte aussi qu'une femme nommée Véronique, identifiée à Bérénice, en tout cas la Bérénice de la Bible, celle qui porte la victoire. Bon, dans la tradition chrétienne orientale. Elle est identifiée à Bérénice, Véronique. Bon, donc on nous raconte que Véronique a peint le portrait de Jésus. J'insiste, elle a peint le portrait de Jésus. Ce portrait donc n'a rien d'un miracle, mais présenté à l'empereur Tibère qui était malade, ce portrait le guérit. Donc on le voit, cette histoire n'est qu'une variante de la précédente légende. Plus précisément, dans cette légende, Véronique se substitue à Thaddée de l'histoire précédente et Tibère à Akbar. À partir de là, vous comprendrez qu'il existe quantité de variantes. Et puis, bon, il faut effectivement maintenant rappeler que l'on raconte encore que l'une des femmes qui suivent Jésus sur le chemin du calvaire essuie le visage du Christ avec un linge au moment où il tombe sous le poids de la croix. Par miracle, ce visage du Christ s'imprime sur ce linge qui sera appelé par la suite voile, suaire, vera icona ou Véronica. Conservée depuis le 8e siècle dans la basilique Saint-Pierre de Rome et très vénérée au 14e et 15e siècle, on sait cependant qu'il en existe des doubles en quelque sorte, ou plutôt que le Saint-Suaire de Turin n'est qu'un avatar de cette issue. Alors il faut comprendre quelque chose, car ce ne sont pas ces histoires légendaires, merveilleuses ou carrément miraculeuses à propos de la Véronica qui importent. Ce qui est beaucoup plus important à signaler, c'est le rapprochement avec le graveur. Pour un graveur dont le métier est de créer des images à imprimer, on doit comprendre que ce récit ne peut avoir qu'une portée immense. L'artiste s'identifie au peintre qui réalise le prototype du portrait du Christ, tandis que l'imprimeur s'identifie à Véronique. La matrice pressée sur le support s'apparente à l'empreinte du visage du Christ sur le tissu. Partant, le papier peut être vu comme le suaire lui-même. Et c'est ainsi, et magistralement d'ailleurs, que l'artiste Claude Mélan coordonne le sujet, c'est-à-dire le voile de Véronique, et la technique pour représenter ce voile de Véronique. Alors regardons de plus près la sainte face de Claude Mélan. La lumière joue un rôle considérable, exaltant les noirs et les blancs. C'est ce qui fait la beauté d'une estampe de Claude Mélan. Afin de valoriser la technique de Mélan, l'imprimeur de génie, a su apprêter la plaque avec suffisamment de finesse pour réussir à magnifier les tailles avec la juste quantité d'encre. Et cela de manière à préserver les blancs. Encore une fois, on a ici une de ces gravures blanches de Claude Mélan, absolument sensationnelle. Et vous allez voir dans un instant à quel point c'est fondamental de préserver les blancs dans ce sujet, cette gravure de la Sainte Face de Claude Mélan. On l'a dit, la Sainte Face est réalisée d'une seule spirale de burin partant du bout du nez de la figure divine, autrement dit une ligne unique qui se déploie en spirale à partir du centre de l'image vers ses limites. Et ça nous conduit à la deuxième chose, la spirale. La technique, en fait, c'est la spirale. La technique, c'est une technique de taille unique, on l'a dit. Donc, technique au burin, taille douce, mais taille unique, qui crée une spirale. Donc, la spirale. La spirale, ici, s'apparente à un véritable labyrinthe. Alors, rappelons que très tôt, les chrétiens figurent des labyrinthes sur le sol des basiliques. Ils empruntent à une iconographie très ancienne le labyrinthe qu'ils vont christianiser ou mettre à leur goût. L'interprétation chrétienne du labyrinthe perdure au Moyen-Âge. Et c'est ainsi qu'au Moyen-Âge, on voit souvent tracé en dalles noires et blanches sur le sol des églises des labyrinthes. Les noirs délimitent le labyrinthe, tandis que les blanches tracent le chemin du labyrinthe. La complexité de son parcours pour se rendre depuis l'entrée, qui représente la vie humaine, jusqu'au centre, qui figure la Jérusalem céleste. Quoi qu'il en soit, la complexité de ce parcours symbolise le cheminement difficile du chrétien avant d'accéder à la récompense éternelle, le paradis. La taille de certains labyrinthes permettait parfois aux fidèles d'exécuter le parcours symbolique à genoux, notamment dans les cathédrales. Il existait en effet en France, dans les édifices gothiques, des labyrinthes qui, pour la plupart, ont été détruits à la fin de l'Ancien Régime. On en trouvait au XIIe et XIIIe siècle dans les cathédrales de Chartres, de Poitiers, de Sens, Auxerre, Amiens, Reims. Bon. En ancien français, le labyrinthe est appelé Dédale, souvenir bien sûr du personnage de la mythologie grecque, Dédale qui avait un fils, Icare, etc. Donc, Dédale est un architecte. Aussi, le labyrinthe a-t-il servi de monument commémoratif en l'honneur des architectes, tels ceux des cathédrales d'Amiens, labyrinthe posé en 1288, et de Reims, fin du XIIIe siècle. Là-dessus, revenons à l'usage du labyrinthe. Le chrétien qui emprunte un labyrinthe est un pèlerin. Son errance ne peut aboutir que si l'âme du chrétien permet au Verbe divin de la guider lors de ce pèlerinage. Il faut donc que l'âme soit assez vertueuse pour écouter la voix divine. Ce chemin est une épreuve, qui d'ailleurs ne manque pas de rappeler les travaux d'Hercule, le chemin qu'a choisi Hercule, qui est le chemin de l'épreuve, mais qui le conduira à l'apothéose. Donc là, vous, sous les yeux, vous avez justement une représentation très intéressante d'un labyrinthe qui est un désir divin, finalement, un cheminement du pèlerin qui tente d'accéder à la représentation de ce divin. Je voulais choisir cette représentation d'Hermann Hugo parce qu'elle date de 1622 et que notre artiste graveur, Claude Mélan, a dû forcément donc tomber sur cette représentation. Et que l'iconographie, ainsi que tout le contexte intellectuel autour de cette image, qui verse un petit peu, il faut bien le reconnaître, dans l'alchimie, dans l'occultisme, dans l'hermétisme, bon, enfin tout ce contexte effectivement a dû très largement inspirer notre artiste Claude Mélan. Alors à ce propos justement, puisqu'on parle de pèlerins, de voyages, de cheminement, d'épreuves, voici un tableau que, là aussi, notre artiste Claude Mélan devait connaître, un tableau de Quentin Varin. Quentin Varin est né à Beauvais vers 1575 et il est mort à Paris en 1626. Donc, le tableau que vous avez sous les yeux du Musée des Beaux-Arts de Rouen illustre le tableau de Cébès. J'en parlais tout à l'heure à propos des satyres qui se moquaient d'un dessin accroché à un arbre. Le tableau de Cébès. Alors le tableau de Cébès est un dialogue, une ekphrasis, pour reprendre le terme correct des anciens. C'est-à-dire c'est une description d'œuvre d'art, en l'occurrence la description d'une peinture. Parmi les traductions dans d'innombrables langues du tableau de Cébès, il faut signaler la traduction en français qui paraît en 1529 à Lyon. Ah, intéressant, parce que là aussi, notre artiste Claude Mélan a pu lire le texte traduit en français. Alors, essayons de remettre dans son contexte ce tableau de Cébès, Tabula Cébétis. Dans l'Antiquité, pour remercier ou honorer un dieu, je le disais tout à l'heure, les fidèles accrochaient aux arbres du sanctuaire, autour des statues, sur les autels des temples aussi, des tablettes de terre cuite ou de bois percées d'un trou pour les suspendre. Le tableau de Cébès est la description d'un de ces présents. Mais ce présent est une tenture dans ce cas. Plus précisément, dans le dialogue de Cébès. Alors, Cébès est a priori un philosophe grec, Cébès de Thèbes, disciple de Socrate, ou bien philosophe stoïcien, originaire de Cyzique, contemporain de Marc Aurèle. On ne sait pas qui était ce Cébès. Soit il a vécu du temps de Socrate et de Platon, soit il est un contemporain de Marc Aurèle, on ne le sait pas. Bon, enfin, qu'importe, dans le dialogue de Cébès, le tableau est l'offrande d'un étranger, qui est comme par hasard le disciple de Parménide et de Pythagore. Donc on imagine l'ekphrasis, c'est-à-dire cette description qui est extrêmement cultivée, qui est portée à un niveau intellectuel très poussé, enfin un niveau philosophique. Plus précisément encore, notre texte met en scène des jeunes gens qui aperçoivent un tableau parmi d'autres offrandes consacrées aux dieux, dans un temple de Chronos. Dans un premier temps, ils ne parviennent pas à comprendre la signification de ce tableau, jusqu'à ce que survienne un vieillard qui va leur en expliquer le sens symbolique. Le tableau se révèle être une allégorie des destinées de l'âme humaine. Alors, si on s'attache au tableau qu'en a fait Quentin Varin, la Tabula Sébétis de Quentin Varin, alors on pourra remarquer effectivement que l'œuvre représente l'élévation spirituelle de l'homme par le motif de l'ascension du mont de la vertu, le mont, la montagne, Pinax. L'image de la montagne comme allégorie de la vie humaine est tirée d'un dialogue philosophique du 1er siècle connu sous le titre de Pinax. C'est donc la référence que j'évoquais à l'instant, le tableau de Cébès. Les figures allégoriques des vertus dans le tableau de Quentin Varin aident les personnes méritantes à gravir le sentier escarpé qui conduit au temple de la béatitude. L'itinéraire initiatique, dont le but est l'accès à la sagesse et au salut éternel, est représenté par le motif de la montée en spirale à l'entrée du labyrinthe, autrement dit au premier plan, à gauche. Vénus offre à l'adepte aspirant une boisson enivrante, qui n'est autre que symbole du pouvoir des sens, puisqu'il s'agit de Vénus. En équilibre instable sur une boule en mouvement, et tenant un pendule à la main. Le pendule est le symbole d'instabilité et d'inconstance, au même titre que la boule sur laquelle l'allégorie est montée. Donc la figure est celle de la fortune, vous la voyez plutôt à droite, déjà inscrite dans le labyrinthe, et nue pour rappeler que c'est une figure allégorique. Elle est donc la fortune, et elle fait référence aux caprices du sort, ainsi qu'aux obstacles que l'homme peut rencontrer sur son chemin. L'accès à la sagesse, figuré maintenant sous l'aspect d'une jeune femme, est reconnaissable au livre qu'elle tient à la main, donc vous la voyez effectivement un petit peu plus haut dans la composition. Cet accès à la sagesse coïncide aussi bien avec la conquête de soi, le cœur pur, le mince des mystiques chrétiens, qu'avec le cheminement de l'âme après la mort du corps. Donc on a bien effectivement ici un itinéraire, une destinée qui est proposée donc à l'homme, ou qui est la destinée de l'homme, mais une destinée qui est marquée par des vertus. C'est une ascension, c'est une montée, c'est un cheminement, c'est un parcours qui est forcément long, éprouvant, mais qui laisse de côté les plaisirs de Vénus pour accéder à la béatitude, à la sagesse. Alors ça, c'est une iconographie qui a beaucoup plu, et l'image suivante, qui est un petit peu d'ailleurs tardive, puisqu'elle date de 1733, vous présente le théâtre moral de la vie humaine en Sainte emblème, ce qui permet d'ailleurs de préciser que le tableau de Cébès est d'ordinaire édité à la suite d'Épictète, le grand philosophe de l'école stoïcienne, et là c'est le cas effectivement. On a d'abord dans cette publication l'Empyridion d'Épictète, et à la suite d'Épictète, le tableau de Cébès, le philosophe platonicien, comme le prétend cette publication de 1733, en fait, je vous rappelle qu'on ne sait pas qui était ce Cébès. Alors on en arrive à la conclusion, à la synthèse. La synthèse sur la sainte face de Claude Mélan. Alors, vous avez cet agrandissement qui est effectivement spectaculaire, saisissant, qui permet de mettre en évidence la fameuse spirale. Et après toutes les explications, on comprend que la spirale de la sainte face de Mélan est un parcours, un très long cheminement, un labyrinthe dans lequel le pèlerin pénètre pour atteindre le Christ qui est le centre du monde. Le pèlerin aura soin d'emprunter le chemin blanc délimité par le trait noir. C'est une gravure blanche qui est réalisée à l'encre noire, un positif qui apparaît comme par miracle à partir d'un négatif reproduisant les traits du Christ mort. L'impression restitue le miracle du suaire que matérialise le papier. L'image ne manque pas de faire renaître le Christ. Je vous remercie.